Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez les livres du jour Les Mardis de la mémoire, dirigés par Anne Collin et Dominique Paoli, préenregistrés le 13 mai 2014, diffusés le mardi 8 juillet de 10h45 à 11h45. Ils sont diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h, mercredi de 6h à 7h, samedi 12 de 14h à 15h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour sont réalisés par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos courriers seront les bienvenus. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonjour chers auditeurs, bienvenue au Mardi de la mémoire. Dominique, bonjour.
Anne, bonjour.
Stéphane Simonet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à nous pour cette émission que nous préenregistrons et dont nous ne savons pas encore au moment du préenregistrement quand elle sera diffusée. Stéphane Simonet, vous êtes historien, vous êtes chercheur à l'Université de Caen, vous êtes membre, je crois, du comité scientifique du Mémorial de Caen.
Oui, je l'ai été, mais
vous l'avez été
très récemment.
Et vos travaux se sont, dans l'ensemble, tous se concentrer sur une période qui est celle de la Seconde Guerre mondiale. Et vous venez aujourd'hui nous présenter deux ouvrages. L'un qui est une biographie aux éditions Talendier qui a été publiée pour la première fois en 2012, consacrée au commandant Kieffer, le Français du jour J. Et cette biographie est complétée ou peut-être amplifiée, ouverte aux 177 Français, donc aux 176 autres du jour J qui ont fait partie de ce fameux commando Kieffer, nom maintenant perpétué par un commando marine, puisque son nom a été donné en 2008,
la création du nouveau commando Kieffer qui est opérationnel depuis 2009.
Voilà. D'accord. Mmh. Également aux éditions Talendier. Et là, c'est un ouvrage qui se présente davantage comme un album, avec, comme toujours, les albums que les éditions françaises s'appellent à faire maintenant avec vraiment grande qualité, à savoir une très riche iconographie, un véritable texte, c'est-à-dire un texte écrit et écrit par un spécialiste, mais un texte qui se lit et non pas uniquement un album qui se consulte en tournant les pages. Et vous rendez hommage par cet ouvrage à ces 177 je trouve presque que le mot héros est faible. Ce sont des hommes hors du commun. Et là, totalement hors du commun, puisqu'ils sont seuls. Voilà, oui. Il y a eux qui débarquent le 6 juin 1944 sur les plages françaises. Et vous allez nous raconter leur aventure. Et peut-être d'abord nous expliquer, parce que finalement, on a presque l'impression maintenant que Philippe Kieffer est connu, que le commando Kieffer. Oui. Mais on oublie qu'il y a presque encore que 10 ans, qui connaissait cet épisode, qui connaissait le nom de cet homme, qui était allé à Swords voir le monument qui leur rend hommage,
très peu de personnes. C'est vrai, ils ont été largement oubliés depuis 1945 jusqu'au début des années 90. Et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années encore, pour ma part, moi je connaissais vaguement l'existence d'un commando français ayant débarqué sur les plages de Normandie. J'en savais pas plus, donc c'est pour ça que j'ai fait ce travail entamé en 2001, donc, d'aller à la rencontre des derniers survivants du commando Kieffer. Il en restait une trentaine. Et donc j'ai fait l'effort de sillonner la France, essentiellement la Bretagne et la Normandie, parce qu'il y a beaucoup de Bretons et beaucoup de Normands dans cette histoire, et d'aller collecter le témoignage de ces hommes qui n'avaient jamais témoigné. Pour la plupart du temps, j'étais le premier à arriver chez eux avec mon micro, et personne n'avait eu le temps ou l'intérêt pour aller recueillir leur témoignage. Donc, pour vous dire un peu l'oubli dans lequel ils étaient tombés. Alors, certains avaient écrit leur mémoire. Il y a eu 6 ou 7 livres qui ont été publiés depuis le bouquin de Philippe Kieffer, Béret vert, en 48, mais voilà, au-delà de ça, leur histoire restait largement méconnue. Et donc, en fait, j'ai fait deux livres. Le premier, c'est pour raconter un petit peu l'histoire du chef, avec qui tout arrive, et sans qui rien ne serait déroulé. Et puis, après, c'est rendre hommage aux 176 autres qui sont tombés dans l'oubli, et qui sont des hommes ordinaires, qui sont des hommes qui se sont portés volontaires pour la durée de la guerre, et qui ont rendossé leur uniforme civil après la guerre, tout simplement, et qui ont eu un mal... beaucoup de difficultés à retrouver une vie construite et une vie équilibrée après cet épisode de la Seconde Guerre mondiale.
Alors, Philippe Kieffer, c'est un personnage qui, de toute façon, à lui tout seul, a une histoire digne d'un roman. Votre livre commence par son arrivée à Londres et puis ensuite vous remontez un peu dans le temps pour nous brosser le tableau de ce personnage. Mais on va quand même commencer par présenter ce personnage dont on peut presque dire rien ne le prédestinait et à arriver en Angleterre et à s'engager dans l'armée et à devenir le héros qu'il est devenu.
Il s'est construit tout seul, en fait, en arrivant en Angleterre en 1940. Il faut savoir qu'il a déjà 41 ans, en juin 40, lorsqu'il débarque à Londres. Jusqu'à présent, il vit confortablement installé dans une vie de banquier, donc à Port-au-Prince, à Haïti. Donc, il a une carrière bancaire de haut vol, de très haut niveau, donc qui lui permet d'avoir des relations dans tout le monde sud-américain, donc et aux États-Unis. Il est marié, il a des enfants. Malgré tout, quand même, à Haïti, la crise arrive dans les années 30. Donc, la famille éprouve quelques difficultés financières. Le couple divorce en 1933. Et Kieffer, en 1939, décide de tout lâcher quasiment, donc à la fois son métier, ses enfants et sa femme. Et donc, il quitte son île natale pour s'installer, pour venir en France. Donc, il arrive en France en avril 1939. Et puis, en septembre, il s'engage dans l'armée de terre, donc de manière volontaire, dans l'armée de terre française. Et très vite, il est basculé dans la marine à la fin de l'année 39. Mais c'est un homme qui arrive dans la marine, il n'a aucune expérience militaire. Il n'a pas fait son service militaire, donc il n'a pas fait la Première Guerre mondiale. Et voilà, et surtout, c'est un homme âgé pour l'époque. Hein, donc les gens qui s'engagent sont plutôt des jeunes hommes de 20-25 ans. Lui, il en a 41.
Oui, parce qu'arrêtons-nous un peu sur cette Première Guerre mondiale. Effectivement, c'est un homme qui avait tout à fait l'âge de la faire, puisqu'il est né en 1878.
Il est né en 99.
Sa famille qui est arrivée en 78 voilà. À Port-au-Prince, bien sûr. Ouais. Enfin, il avait tout à fait l'âge de faire la Première Guerre mondiale, mais le fait qu'il soit natif d'Haïti, qu'il ait fait ses études à Jersey, enfin, il n'est jamais appelé.
Géographiquement, c'est très compliqué de le faire venir en France sous les drapeaux. Donc, et puis il sera arrivé en 1918 avec la classe d'âge, donc c'était très compliqué. Donc voilà, c'est un homme, c'est un civil en uniforme qui débarque dans l'état-major de la marine en 39, en décembre 39. Et voilà, là, il va entamer vraiment une carrière militaire effectivement, qui n'était pas du tout prédestinée. Et il va s'y plaire puisqu'il va y rester jusqu'à la fin de la guerre.
Alors, les débuts de la guerre de Philippe Kieffer sont les débuts classiques d'un engagé volontaire dans la marine française. C'est-à-dire qu'il va se retrouver sur la côte normande, du côté de Dunkerque, Saint-Vallaougue, etc., Cherbourg. Et donc, il va faire partie de ces troupes françaises, de ces unités françaises qui se replient et qui cherche une seule chose, finalement, c'est échapper aux Allemands pour ne pas être fait prisonnier. Ouais. Et donc, il va avoir la chance, parce que tout le monde n'a pas la chance qu'il a à ce moment-là, c'est de pouvoir prendre un bateau qui lui aussi va avoir...
Alors c'est un bateau, c'est un chalutier belge, effectivement, qui quitte le port de Saint-Vallaougue, un des derniers bateaux à quitter le port, et à bord a réussi à prendre place Philippe Kieffer. Alors ce bateau ne fait pas route vers l'Angleterre, dans un premier temps, le bateau fait route vers... il essaye de contourner la Bretagne pour redescendre vers les Landes, enfin vers le golfe de Gascogne. Et le bateau est dérouté à plusieurs reprises, et finalement il est pris en charge par les Anglais qui lui intiment l'ordre de rentrer en Angleterre. Donc il arrive un peu par hasard en Angleterre. Alors, l'arrivée de Kieffer en Angleterre se passe plutôt bien parce qu'il maîtrise parfaitement la langue de Shakespeare. Il a sa sœur qui habite à Oxford. Donc, il a déjà un pied à terre. Il sait où il va. Et puis, voilà, donc il parle anglais couramment. Donc, c'est un point fort quand il arrive. Il n'est pas perdu comme peuvent l'être des tas de Français qui vont arriver après lui, des jeunes qui vont débarquer dans les camps. Et donc lui, il s'installe et il prend ses marques tout de suite dans ce pays qui lui est un peu familier.
Mais ce départ et cette arrivée en Angleterre, comme vous le dites, presque le hasard hein, qui va le conduire là-bas, rappelle ce dont nous avions parlé à dans ce même studio au sujet d'Elisabeth de Miribel, c'est-à-dire le destin hein, qui fait que certains hommes vont se retrouver très tôt en Angleterre. Alors lui, il va choisir d'y rester, hein, comme Elisabeth de Miribel, justement. Mais la destinée en 40 des hommes est encore extrêmement incertaine. Et les événements vont presque les prendre en charge malgré eux au début.
Oui, complètement. Alors, les Anglais sont eux-mêmes débordés par l'arrivée massive de tous ces marins, mais pas simplement des marins. Il y a aussi des aviateurs, il y a des soldats, il y a des civils aussi.
Tous ceux qui arrivent de Dunkerque,
voilà. Il y a tous les légionnaires qui arrivent de Narvik, qui étaient en Bretagne, qui repartent. Donc les Anglais organisent comme ils le peuvent des camps, c'est vraiment des camps d'internement où on va se parquer ces Français en attente de savoir ce qu'ils veulent faire. Et puis l'épisode de Marcel Kibir, effectivement, va précipiter un petit peu les choses. Beaucoup de Français vont vouloir rentrer après cet épisode un peu dramatique pour l'armée française. Et des 12 ou 15 000 Français qui sont là en juin, juillet 40, il n'en reste plus que 900 à la fin. Donc Kieffer fait partie de ces gens-là. Il reste en Angleterre, il s'engage même dans les rangs de la France libre, donc le 1er juillet, donc le premier jour de l'existence des forces navales françaises libres du général de Gaulle.
Alors Stéphane Simonet, expliquez peut-être, parce que moi, c'est vraiment une des choses que j'ai trouvées très neuve, très riche, enfin, dans votre ouvrage, qui est jalonné comme ça de découvertes, mais celle-ci tout particulièrement, c'est quand, et surtout, cette propagande de tous côtés que subissent ces hommes et qui fait qu'il devait être excessivement difficile, voire cornélien, de savoir que faire. Il y a la propagande, ce que seront les vichistes plus tard. Il y a déjà la propagande de ceux qui veulent absolument que la France soit en Angleterre. Il y a les Anglais qui n'ont pas forcément envie de garder les Français. Enfin, et tout ça bataille dans les camps autour jeunesse qui, généralement, a du mal à faire des choix nuancés, équilibrés et justes.
Complètement. Alors, il faut imaginer une période, effectivement, du 18 juin, quand De Gaulle arrive à Londres, jusqu'au 1er juillet, donc une quinzaine de jours, effectivement, chacun s'emploie à récupérer ces personnes. Donc il faut savoir aussi que tous ces jeunes qui sont là, ils sont un peu perdus, ils sont un peu derrière leur chef. Ça peut être le chef du bâtiment qui les a amenés en Angleterre. Donc il y a une fidélité en plus dans la marine par rapport au patron du bâtiment. Donc c'est, à ce moment-là, c'est Vichy. Donc les gens ont tendance, déjà les soldats ont tendance à se mettre derrière derrière leur chef. Donc ils obéissent à leur chef. Donc quand leur chef dit on rentre en France, on rentre en France. Après il y a la propagande effectivement de la Royal Marine, de la Royal Navy, pardon, qui décide aussi, qui propose à ces jeunes volontaires de s'engager dans l'armée britannique, dans la marine britannique. Et puis il y a ceux qui vont désobéir, les rebelles, qui vont voir un peu, qui vont regarder comment s'organisent les forces du général de Gaulle à ce moment-là. Donc la propagande gaulliste est très forte à ce moment-là aussi. Donc de Gaulle recrute à tour de bras, s'il a besoin d'une armée qu'il est en train de constituer pour partir en opération sur tous les théâtres d'opération. Et donc voilà, on est dans des débats avec des tracts interposés, des journaux clandestins, des affichettes, voilà, tout le monde s'y met. Et au bout du compte, Marcel Kibir va précipiter un petit peu la décision des uns et des autres, va être là un peu la césure de cet été-là. Et De Gaulle se retrouve finalement avec très peu d'hommes, hein, je vous disais 900 volontaires qui vont être le noyau de la Légion de Gaulle, comme on l'appelait à l'époque. Et il va falloir qu'ils fassent avec ça au tout début de Gaulle. Mais il faut imaginer des jeunes perdus, découvrant un pays qu'ils n'ont jamais vu jusqu'à présent, l'Angleterre, une langue qu'ils ne connaissent forcément pas.
Ouais, et puis pour les marins, ce n'est pas l'idéal en plus.
Et pour les marins, ce n'est pas l'idéal. Et puis, alors la décision d'un homme va être celle d'un groupe. Par exemple, on est entre copains, il y a des débats. Toi, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tout ça, c'est une période très compliquée et très intéressante, je trouve.
Ah oui, bien sûr, oui. Et puis, il faut aussi imaginer que c'est notamment les marins se retrouvent avec des bâtiments français qui sont en Angleterre, avec, au moment de Marcel Kibir, enfin même juste avant, une décision qui est que de toute façon, on ne peut pas les réintégrer, ces bâtiments, puisqu'il y a interdiction de les mettre au service des Anglais. Enfin, pour eux, ça doit être des situations...
Tous les marins sont débarqués hein, de leur manu militari de leur bâtiment au moment de Marcel Kibir. Et ces marins-là atterrissent dans des camps, donc ils ne sont plus tous sur leur bâtiment. Les bâtiments sont confisqués par les Anglais. Et donc là, il faut prendre effectivement une décision. Et beaucoup vont rentrer quand même en France, hein, parce que beaucoup ont été choqués par ce tour de force des Anglais.
Vous parlez beaucoup d'un bâtiment qui lui aussi vaudrait presque une biographie, c'est le Courbet. Ce bateau qui va finir à Romanche en...
Le Courbet, effectivement, arrive dans le port de Portsmouth dès le 18 juin avec tout son équipage, son état-major. Il va servir un temps d'école navale de la France libre et puis il va être désarmé en 1941-42. Et coup du sort, effectivement, il va être remorqué au large des côtes normandes pour être sabordé devant la plage de Ouistreham, donc sur Sword Beach, pour constituer un brise-lames, comme les Américains et les Anglais les ont installés. On parle beaucoup du port d'Aromanche, le port artificiel, mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres structures servant à établir des ports un petit peu en eau calme. Et ces brise-lames, le Courbet en fait partie. Donc c'est un destin un peu particulier, ce Courbet.
Et après avoir tiré, je crois, pendant 9 heures durant... avant de se saborder. Ouais. Il lui est rendu hommage sur la plage, je crois que c'est à Colville, sur la promenade.
Participe à la bataille, au débarquement, bataille Normandie, puis après il se saborde, il contribue aussi parce qu'il est ce qu'on en fait à la victoire des Alliés.
Alors Philippe Kieffer signe donc son engagement dans ces forces que l'on appelle comment à ce moment-là?
Alors,
parce que là on est le 1er juillet 40, on est excessivement tôt.
Création des forces françaises libres et puis après il y a des forces navales françaises libres donc, qui sont créées par l'amiral Muselier.
Voilà. Il reçoit d'ailleurs la visite du général de Gaulle dès le 1er ou le 2 juillet, puis de Georges VI et de son épouse. Et là aussi Mercel Kébir, ça a dû être dramatique le lendemain pour ces hommes... Il fallait vraiment avoir l'envie de rester.
Ah oui, il fallait vraiment. Alors certains ne voulaient absolument pas rentrer en France, parce qu'ils connaissaient la situation qu'ils avaient quittée déjà, et savoir que le pays était occupé par les Allemands, c'était insoutenable. Donc ils préféraient encore les Anglais que de revenir en France occupée.
Oui.
Avec le maréchal Pétain qui plus est.
Voilà. Oui, c'est sûr qu'on comprend
puis,
les difficultés de choix de tous ces
hommes. Oui, et puis il faut se mettre dans la peau de ces gens-là qui sont des jeunes, souvent 18-20 ans, qui ont envie de faire quelque chose, d'être en rébellion. C'est la première fois de leur vie qu'ils se mettent en état de rébellion. Et il y a aussi le goût de l'aventure. Voilà, ils risquent quelque chose. Et c'est vrai que le général de Gaulle est une carte à jouer quoi, donc, pour ces gens-là.
Alors, je rappelle aux auditeurs que nous parlons avec Stéphane Simonet du commandant Kieffer et du commando Kieffer, puisqu'il ne s'agit pas que du chef, mais également de tous les hommes. Alors, on est au 1er juillet.
Sur Radio Courtoisie.
Bien sûr. Nous sommes le 1er juillet 40 et le débarquement, le grand fait d'armes, ce ne sera que le 6 juin 44, même si votre livre s'attelle à montrer combien tout cela a été préparé et qu'il y a eu des activités, des actions menées par ces hommes avant. Mais il y a toute une phase très importante au début de cette mise en place en juillet et pendant l'été 40. De recrutement. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout cela se passe et comment progressivement se constitue
La première des choses, c'est que Kieffer sait pertinemment que, vu son âge, il ne pourra pas commander une unité de marins, de fusiliers marins. Donc lui, il souhaite vraiment, il arrive en Angleterre, c'est pour prendre les choses en main. Donc il veut vraiment commander quelque chose de neuf. Et de août 40 à quasiment mars 41, il est dans un état-major à Portsmouth. Il est officier de liaison entre les autorités britanniques et les autorités françaises libres dans ce port de Portsmouth, qui est une base logistique importante pour la marine française. Et il a sous ses yeux une nouvelle armée qui se met en place en Grande-Bretagne, qui est l'armée des commandos. Churchill a inventé des unités spéciales, des commandos marines, qui sont employés pour faire des coups de main sur les côtes occupées en Norvège, aux Pays-Bas, en France. Et donc, ça interpelle quelque part Philippe Kieffer, qui décide de monter un projet, de créer une unité française de commandos français, des fusiliers marins commandos. Donc, il commence déjà par se donner une formation, lui, qui n'est que simple quartier-maître, d'officier interprété du chiffre. Il décide de se donner une formation de fusiliers marins. Et après, fusilier marin commando. Donc, il a déjà sa propre formation. Donc, il fait des stages en école anglaise. Et puis, il en parle aussi à ses supérieurs, donc l'amiral Muselier, qui approuve un peu son projet. Muselier étant lui-même un ancien fusilier marin. Et après, Muselier lui dit banco, feu vert, mais vous vous occupez vous-même du recrutement des volontaires auprès des autorités britanniques. Donc, il joue sur les deux tableaux. Hein, Kieffer, il est intelligent. Il sait jouer de tout ça. Et il décide, une fois qu'il a ce feu vert Donc, quasiment en mars 41, il décide de recruter à tour de bras dans toutes les casernes de l'Angleterre des volontaires, essentiellement des marins, parce qu'il veut quand même des gens qui ont l'expérience de la mer. Et le raid anglais de mars 41 va être le déclic. Il voit qu'il y a un raid qui réussit en Norvège, qui emploie plusieurs centaines de commandos britanniques, et ce raid est le déclencheur. Et donc, c'est là que cette idée prend forme définitivement, si vous voulez. Mais il faut attendre encore janvier 42 pour qu'il ait que ça 100% de son emploi du temps. Janvier 42, il a le feu vert du côté britannique et du côté français de créer cette unité française de commando. Donc il recrute. Donc au début, il va chercher des repris de justice, des espèces de types qui ont le goût de l'aventure, des gens déjà qui sont disponibles, parce que la plupart sont déjà partis. Hein. Donc il a énormément de mal, il recrute un petit noyau de 28-30 personnes qu'il va emmener en Écosse pour la formation commando. Donc vous voyez, c'est très très long. C'est très long, mais lui-même déjà s'est déjà donné cette expérience de militaire. Et après, il va donc former tous ses hommes et ses officiers à partir de janvier 42. La deuxième étape, ça va être, donc on part avec 25-30 hommes. En août 42, il y en a à peu près 80. Et puis la deuxième grande vague de recrutement, ça va être l'été 43. Donc là, il y a le deuxième bataillon de fusiliers marins qui est dissous et qui est à ce moment-là en Syrie, au Levant, et qui revient en Angleterre. Et là, on leur propose, à ceux qui le souhaitent, d'intégrer la troupe de Kieffer. Donc là, ils récupèrent à peu près 70 hommes. Donc on porte la troupe à 120. Et puis la dernière phase de recrutement, janvier 44, un jeune lieutenant de l'armée de terre, le lieutenant Amaury, entraîne des hommes sur le style commando à Camberley, dans un camp anglais, et il propose ses hommes, son effectif à Kieffer. Et donc la troupe se forme pour atteindre le chiffre de 480 volontaires. Mais là, on a été très vite, mais Kieffer passe son temps à essayer de trouver des recrues, à convaincre les De Gaulle, les Muselier, puis après d'Argenlieu, à lui donner des hommes. Et tous ces hommes, en fait, De Gaulle en a aussi besoin de son côté pour équiper ses bateaux, pour équiper ses armées. Et De Gaulle ne l'aide pas beaucoup, finalement, même s'il lui a donné le feu vert au départ en mai 42. La grande difficulté pour Kieffer, ça va être le recrutement. Mmh. Et surtout de garder ses hommes, parce que vous comprenez bien, les premiers volontaires arrivent en janvier 42, les combats ne viennent qu'en juin 44, les hommes s'ennuient, les hommes piétinent d'impatience, donc certains vont partir.
Mais alors justement, vous parliez de De Gaulle, quels sont les rapports, y a-t-il des rapports entre De Gaulle, Philippe Kieffer et puis le commando en général?
Alors De Gaulle a officialisé la création de cette unité en mai 42, avril-mai 42, il officialise la création du futur commando Kieffer en signant un acte avec l'amiral Lord Mountbatten, mm-hmm, qui commande les opérations combinées. Donc il y a déjà un accord officiel, avril 42. Après juillet 42, De Gaulle, lors du 14 juillet à Londres, passe en revue les troupes françaises. Et ça va être la seule fois que Kieffer va voir De Gaulle. Il ne le verra plus du reste de la guerre. En juillet 43, lors du défilé à Londres, ce n'est plus lui qui fait l'inspection, c'est le général Giraud. Et en juin 44, lorsque De Gaulle vient débarquer à Courseul le 14 juin, il ne va pas voir le front britannique sur lequel sont les Français. Et d'ailleurs, les Français lui en voudront beaucoup. Et donc, De Gaulle, voilà, n'apparaît qu'une seule fois. Hein. Donc, c'est juillet 42.
C'est quand même assez curieux.
C'est assez curieux. Effectivement. Alors, il y a le feu vert de De Gaulle, et puis après, il y a une espèce de difficulté entre les deux hommes. De Gaulle, je pense, reprochant aussi, n'aimant pas trop l'idée que des soldats français opèrent sous uniforme britannique, sous commandement britannique. Et puis, la marine, ça n'intéresse pas plus que ça, hein, par rapport à l'armée de terre ou à l'aviation.
Mais d'ailleurs, dans la présentation de votre ouvrage, il est bien dit que le général De Gaulle, qui considère que le débarquement n'est pas un combat de la France libre, mais une opération anglo-américaine, et ne viendra même pas les voir.
Oui, ça, effectivement. De Gaulle, vous le savez, a été prévenu la veille ou l'avant-veille.
Oui, bien sûr.
De l'opération Overlord par Churchill, donc il a très très mal pris. Il y a très peu de troupes, donc il n'y a que ce commando Kieffer qui est engagé, donc il va préférer effectivement y soutenir toute la mémoire du débarquement de Provence notamment.
Ouais. Alors ça, en revanche, ça fait partie des grandes découvertes que j'ai eues moi en vous lisant, c'est que ce que l'on dit tout le temps de De Gaulle qui apprend la veille ou l'avant-veille le débarquement, on peut comprendre l'animosité entre guillemets qu'il avait à l'égard de Kieffer et de ses hommes, parce qu'alors eux, c'est une longue préparation et ils savent depuis plusieurs mois que ça va avoir lieu, ils travaillent sur des cartes. Donc, il y a toute une préparation. Ce débarquement, en tout cas pour ces 177 Français, ils n'ont pas su la veille où ils allaient.
Non, ils savent à peu près à partir d'août 1943, la décision est prise de débarquer en France. Alors, est-ce que c'est le Nord-Pas-de-Calais ou est-ce que la Normandie, on n'en est pas encore là. Mais déjà, c'est la France. Et ces hommes-là ne le savent pas encore. Hein. Chez Kieffer, ils vont le savoir assez tardivement. Ils vont le savoir au mois d'avril. Avril 1944, ils sentent que c'est en France que ça va se passer et en Normandie. Et ils vont encore avoir une connaissance plus fine du lieu du débarquement lorsqu'ils vont être dans un camp secret. Donc en mai 1944, à partir du 26 mai, ils sont enfermés dans un camp secret, donc à quelques jours du débarquement. Et là, ils découvrent des photographies aériennes et des cartes muettes. Mais certains d'entre eux sont normands et certains d'entre eux ont découvert le double estuaire de l'Orne et le golfe et la côte, donc la baie de Seine entre Le Havre et Cherbourg. Donc là, beaucoup l'ont reconnu et beaucoup, effectivement, ont vendu un peu la mèche. Et à tel point qu'ils sont rappelés à l'ordre par le commandant britannique de pas trahir le secret.
Bien sûr.
Voilà. Donc à partir de là, on peut dire que mai 44, les Français savent où ils vont débarquer. Mm-hmm. Mais jusqu'à présent, ils s'entraînent. Ils ne font que s'entraîner. Ils sont super entraînés. Ils sont surentraînés. Ils n'arrêtent pas depuis janvier 42 de s'entraîner. Donc voilà. Et malheureusement, ils sont que 177 à être prêts à combattre à ce moment-là. Donc ce qui est très peu, finalement. Par rapport en 2 ans de recrutement.
Alors parlons un peu de ces 176 hommes justement, oui, à qui vous rendez hommage dans ce deuxième ouvrage dont nous parlons aujourd'hui, qui lui vient tout juste de sortir. C'est un ouvrage édité par les éditions Taillandier, mais également par le ministère de la Défense, en tout cas une coédition avec une première de couverture digne d'une photo de classe. C'est la French Class Commando des Forces Nationales Françaises Libres, des tout jeunes hommes. On a l'impression quasi d'une classe de prépa, d'un lycée parisien, sauf qu'ils sont en vareuse et avec le petit bachi ou bonnet à pompons,
le bachi
sur la tête. Ouais. Alors, vous pouvez un peu nous présenter ces différents hommes.
Voilà, tout est dit dans cette photo-là qui résume à elle seule un petit peu qui étaient ces gens-là. Alors il faut savoir que sur cette photo, ils sont, je sais pas, une quinzaine, je crois, il n'y en a que 7 qui sont présents au débarquement. Beaucoup ont quitté la troupe, beaucoup ont été tués lors des raids qui ont eu lieu durant la nuit de Noël 43. Ils viennent des 4 coins de la France et des 4 coins du monde, je dirais. Donc il y a des Bretons, il y a des Normands, il y a des Franciliens, il y en a qui viennent de Tunisie, du Maroc, il y en a qui viennent de plus loin, du Pacifique. Ils ont tous, à un moment donné, ils sont tous arrivés en Angleterre, ils se sont tous ralliés à la France libre, donc ce sont tous des Français libres. Et après, ils ont fait la démarche d'intégrer les commandos de Kieffer. Donc ils ont effectivement, sont des jeunes. La moyenne d'âge, quand ils débarquent le 6 juin 1944 en Normandie, est de 24 ans. Ouais. 24 ans. La plupart sont des marins. Sur les 177, une bonne centaine est déjà marin avant la guerre. Alors, marine marchande, marine de pêche, marine de guerre. Donc, ils ont déjà l'expérience de la mer. Et puis, certains d'entre eux ont déjà l'expérience de la guerre. Donc, parce que beaucoup, donc, je vous le disais, ont fait aussi une campagne en Syrie. Donc, ils ont déjà cette expérience-là. Et donc, c'est ce doux mélange qui fait aussi que cette troupe est complètement hétérogène. Il ne faut pas avoir en tête l'idée d'une troupe compact, il y a des gens instruits, il y a des gens en instruction, il y a tous les métiers du monde, il y a des boulangers, des bouchers, des artisans, il y a des gens au chômage, des mercenaires comme ça, il y a des gens qui ont arrêté leurs études de médecine pour s'engager ou qui viennent d'avoir le bac, il y a des aristocrates, il y a des bourgeois, il y a tout. La France en réduction est ici au cœur de ce commando, et tous ces gens-là obéissent à un seul chef, Kieffer, et puis à l'intérieur de la troupe, il y a encore d'autres personnalités qui sont les officiers, donc certains répondent de Kieffer, d'autres de Charles Trépel, d'autres de Alexandre Loffy. Voilà, chacun est derrière son homme qui l'a recruté, qui l'a fait venir au commando.
Parce que Kieffer a des adjoints, donc
L'idée, c'est que Kieffer n'est pas tout seul. Et ce que j'essaye de montrer, c'est que Kieffer, aussi bien dans la biographie que dans ce livre-là, c'est que Kieffer n'est pas, même s'il a l'idée seul au départ, il est entouré à chaque fois par sa hiérarchie, donc l'amiral Muselier. On oublie De Gaulle, mais De Gaulle est quand même là. Mais l'amiral Muselier, puis après Thierry d'Argentlieu, Obueno, tous les amiraux qui ont commandé les forces navales françaises libres. Et puis il a des très bons officiers qu'il a recrutés très tôt, et qui sont des meneurs d'hommes. Qui viennent de l'armée de terre et qui seront là jusqu'au débarquement, qui vont le suivre jusqu'à la fin quasiment. Donc il n'est pas tout seul dans cette aventure, et heureusement, parce que c'est un homme quand même âgé, entre guillemets, hein, il a 42-43 ans, il n'a pas d'expérience militaire, les autres l'ont, donc voilà, il s'appuie sur cette structure-là pour être présent le 6 juin 44.
Alors, moi, il y a un personnage qui m'a frappé parmi tous ceux que vous évoquez, c'est l'aumônier. René de Nauroy, qui lui arrive tardivement à Londres, et c'est pas faute pourtant d'avoir voulu y partir.
Il arrive très tardivement, comme comme pas mal de gens, il arrive en début de l'année 44, en avril 44, il arrive d'Espagne. Donc il a réussi à quitter, avec l'accord de son évêque, Monseigneur Saliège, donc la région de Toulousaine, où il a fait des actes de résistance, notamment de cacher des juifs et de les faire passer la frontière, soit en Suisse, soit en Espagne. Et lui-même est recherché par la Gestapo pour cette action, et donc il va franchir les Pyrénées. Malheureusement, se faire arrêter dans les prisons espagnoles et délivré par la Croix-Rouge, gagner le port de Gibraltar et de là, gagner l'Angleterre via un bateau qui remonte sur l'Angleterre. Et en arrivant en Angleterre, il est présenté au général de Gaulle qui lui dit « Voilà, je vous propose en gros les parachutistes, l'aumônerie militaire de Grande-Bretagne ou les commandos. » Mais il dit « Je prends les commandos. » Et ce type-là, qui a 35 ans à l'époque, qui a eu plusieurs vies avant, hein, dans les chantiers de jeunesse, à Uriage et autres. Il se retrouve donc au sein de l'élite britannique, hein, donc les commandos britanniques avec les hommes de Kieffer, et il arrive pour être l'aumônier du bataillon. Et donc il aura comme rôle, au moment du débarquement, d'assister ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas, voilà, par sa présence. Et il a aussi avec lui donc son crucifix, ses hosties, il a tout. Il donne la communion sur le bateau qui traverse la Manche dans la nuit même, et même le matin sur la plage. Donc il a ce rôle-là, et il va donc participer au débarquement et à la bataille de Normandie comme un réconfort aussi. Il n'a pas d'armes par contre, il ne porte pas d'armes, mais voilà. Mais il a envie d'être là, il est sûr d'être là au bon moment, voilà, c'est là qu'il doit être au moment du débarquement.
D'autres personnalités que vous voudriez présenter aux auditeurs, un ou deux personnages marquants?
J'aime beaucoup le jeune René Rosset, qui est toujours vivant d'ailleurs. Il fait partie des 10 derniers survivants. René Rosset, lui, est tunisien. Donc il s'engage, il a 16 ans, donc il triche sur son âge pour s'engager. Donc il se fait passer pour un gars de 17-18 ans, donc dans un bureau de recrutement en Tunisie en 43. Donc il quitte ses parents, ses sœurs et ses frères. Il s'engage tout seul dans ce bureau et donc il arrive, après pas mal de péripéties, à Londres. Et là, donc, il arrive en début 44 dans ce commando Kieffer. Il n'a jamais vu la France, il ne sait pas à quoi ça ressemble. Et donc la première journée passée en France, c'est la journée du 6 juin 44 lorsqu'il débarque. Donc il a toujours, quand je le rencontre, il raconte toujours son... Voilà, quand il met le pied en France, c'est sur la plage de Sword Beach, quoi. Et donc c'est le plus jeune. Donc on l'appelle le petit Rosset ou le Tunisien. Il est de 1926, donc il a 18 ans lorsqu'il débarque quasiment. Donc c'est le plus jeune du commando. Et donc c'est un peu la mascotte du groupe, quoi, quand même. Parce qu'en plus, il a son accent pied noir, il ne connaît pas la France, donc il se fait un peu charrier. Voilà. Après, il y a aussi une figure qui a été marquante, c'est le médecin capitaine du bataillon, le médecin capitaine Lyon, docteur Lyon, qui est aussi une personne qui a eu un rôle. Il commandait le bataillon sanitaire donc, au moment du débarquement, et qui se fait tuer tout de suite sur la plage le 6 juin, donc dans Rivabella. Voilà des figures un peu marquantes. Et puis il y a aussi le jeune Gwenaël Bolloré, donc de la famille industrielle Bolloré. Bolloré, alors lui c'est pareil, dès l'occupation allemande, même un peu plus tard, 41-42, il vend son cheval pour s'acheter un petit bateau et qui lui servira à s'évader de Bretagne le moment venu. Et il s'évade de Bretagne en 43 avec 7 autres personnes, dont son cousin Marc Tubé, et ces deux hommes s'engagent dans les commandos en arrivant en Angleterre, et Gwenaël Bolloré débarque le 6 juin, et donc il fera toute la campagne également avec son cousin. Voilà, donc c'est aussi une figure importante du bataillon, et qui créera aussi ses mémoires dans les années 60, lorsqu'il sera devenu PDG de la société que l'on connaît maintenant.
Alors, ces hommes se préparent. Vous nous avez montré qu'il y a d'abord eu les difficultés du recrutement, puis ensuite la dure préparation, parce que on connaît tous les images d'archives de ces commandos britanniques, et donc les quelques commandos français qui s'entraînent dans les camps britanniques, avec vraiment un entraînement extrêmement difficile.
L'entraînement en Écosse,
c'est
très, très dur. Hein,
vraiment. Ouais. Et alors, donc, ils sont mis dans ce camp pour préparer le D-Day, notre jour J. Et là, on voit, vous en avez un tout petit peu parlé, tout l'apport de la photo aérienne.
Oui.
Alors, même si à Ouistreham, il y a quand même quelques points stratégiques qui n'ont pas été bien vus, notamment cette tour là que l'on voit encore d'ailleurs.
Tout à fait, qui est un musée maintenant, c'est le Grand Bunker.
Le musée du Grand Bunker, oui.
Alors malgré tout, oui, malgré les renseignements fournis par la résistance, malgré les photographies aériennes, les cartes anonymes qu'on a pu dresser, il y a effectivement 2-3 points qui n'ont pas été décelés lors du briefing dans le sud de l'Angleterre. Et donc cette présence du poste de direction de tir, qui est une tour de de 12 mètres de haut, donc sur plusieurs étages, et qui commande toutes les pièces d'artillerie de la position allemande à Ouistreham. Donc ça n'a pas été identifié. De même, n'a pas été identifié un mur en chicane qui sera très important et qui obstrue l'accès au fameux casino de Ouistreham. Et donc, le matin du 6 juin, ces hommes, les Français, vont être coincés derrière ce mur en chicane, derrière lequel il y a un fossé anti-char. Et donc là, ils sont pris au piège, ils n'ont pas du tout prévu la chose. Et donc, ce qui va leur causer les premières pertes. Donc, les trois premiers morts vont être tués par des snipers derrière ce mur en chicane. Mmh. Donc voilà, donc c'est une troupe qui débarque en fait et qui est mal renseignée finalement. C'est ce que j'essaye de montrer, hein, qui est mal renseignée parce qu'elle n'a pas toutes les informations en main. C'est une troupe qui est certes très très entraînée mais qui est sous-armée, elle n'a pas d'armes lourdes. Et Dieu sait que le casino de Ouistreham, il a des grosses pièces d'artillerie de 88 mm qui lui tirent dessus. Et puis au moment de débarquer, ces hommes ont des radios, mais avec l'eau, le sel, donc les radios ne fonctionnent plus très vite. Et puis les armes s'enrayent très vite aussi. Et donc voilà, donc il y a une espèce de perte et une troupe qui arrive un peu meilleure décousue au pied du casino due à tout cela.
Et tous les petits raids, alors le mot petit n'est pas, c'est pas là, parce que c'est dur, hein, ce sont des raids durs, d'abord mortels pour plusieurs d'entre eux. Tous ces petits raids successifs, une petite dizaine qui sont effectués dans l'année précédente, vont leur servir le cadre de leur préparation.
Il y a deux choses. Les Britanniques ont décidé d'aller intoxiquer les Allemands en montant des raids à la fois sur le Nord-Pas-de-Calais, là où ne sera pas le débarquement, mais en faisant croire aux Allemands que ça sera quand même là, et en Normandie, et dans les îles anglo-normandes. Donc on va organiser des raids dans lesquels on va envoyer des équipes britanniques, et on va envoyer des Français, parce que les Français, il faut les occuper. Et Kieffer tire la sonnette d'alarme durant l'été 43 en disant, voilà, moi mes hommes, depuis le raid de Dieppe, en gros, une 15 d'entre eux qui ont participé, mes hommes n'ont rien fait, ils sont prêts. Et on sent quand même que voilà, c'est un peu la crise au sein du bataillon. Et donc les Anglais vont dire, ok, on vous prend 80 bonhommes de la troupe et on va les envoyer dans des raids, notamment en Normandie. Quoi. Et donc c'est ça l'idée, c'est que comme on va faire des raids en France, on va envoyer des Français pour pouvoir prendre des renseignements, essayer de prendre contact avec la population qui sera sur place. Donc on va envoyer effectivement 12 équipes de raids, essentiellement durant la nuit de Noël 43. Donc, et certains d'entre eux vont être dramatiques parce que les équipes ne vont pas rentrer, vont être complètement décimées au sol, ou certains vont être pris dans des champs de mines, donc les blessés et les tués vont être laissés sur place et l'équipe rembarque. L'idée du raid, c'est un aller-retour dans la nuit. Hein, donc on part de Portsmouth, on traverse la Manche au bout de 6 heures, on arrive vers minuit, 1 heure du matin au large des côtes, on débarque. Une équipe de 6-7 personnes, on reste 3-4 heures et on rembarque à l'aube. L'idée, c'est d'aller prendre un échantillon de sable, d'essayer de récupérer une mine magnétique allemande ou, si possible, un prisonnier de guerre allemand. Ça sera rarement fait, d'ailleurs. Et après, on rembarque en Angleterre et là, c'est dans le cadre de la préparation du débarquement, tout ça. Parce qu'en plus, il y a un raid qui va avoir lieu quasiment près de la plage du Tabitch. C'est le raid de Francis Wurch, là, qui va être un modèle de perfection, de réussite. Et donc, Francis Wurch et tous ces Français vont réussir leur mission. Mais on est vraiment fin 43. Les dernières missions, c'est février 44. Après, il faut arrêter parce qu'on est trop proche de la date du débarquement. Mm-hmm. Donc, ces Français, pour terminer, voilà, leur engagement, il est simple. Hein, raid de Dieppe, août 42, et les raids de sondage sur les côtes occupées en Noël 43. Et après, c'est juin 44.
Alors, nous allons rappeler à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie et que nous sommes en différé. Donc, cette émission est enregistrée le 12 mai 2014. Et je donne cette date précisément parce qu'elle jouera un rôle dans la question suivante. Mais nous recevons donc Stéphane Simonet pour deux ouvrages. Sa biographie du commandant Kieffer, le Français du jour J aux éditions Talendier. Et l'autre, Anne, je vous laisse...
Les 177 Français du jour J.
Voilà.
Toujours aux éditions Talendier.
Talendier en collaboration
avec le ministère de la Défense.
De la Défense. Alors ma question justement, c'est que vous parliez tout à l'heure d'un manque d'information. Hier soir, donc, le 12 mai, nous avons pu regarder un documentaire extrêmement intéressant sur France 3. Ça concernait tous les bombardements que la France a subis pendant la guerre de 40. On a tous en mémoire les bombardements du moment du printemps 44, qui précèdent ou qui suivent le débarquement. Mais on a découvert quand même quelque chose d'absolument inouï, c'est que finalement ces bombardements ont eu lieu en permanence quasiment. Alors, deux questions. D'abord, qui était informé de ces bombardements du côté, par exemple, du commandant Kieffer ou du côté de De Gaulle, etc. Parce que quand même, c'était la France qui était visée. Et puis, est-ce qu'on pouvait imaginer jusqu'à ce documentaire l'ampleur des dégâts, 60 000 Français tués, dont énormément de civils, et si l'on en croit le documentaire, pour pas grand-chose.
Alors du côté de l'information que pouvait avoir le général de Gaulle ou les Britanniques ou les forces alliées, enfin les Français essentiellement, bah, ils le savent bien évidemment, c'est la propagande de Vichy.
Les informe,
voilà, que les Alliés bombardent la France, ces assassins bombardent la France, donc effectivement, de Gaulle n'a pas vraiment réagi par rapport à ça, hein, donc c'était pas son rôle, mais voilà, ces bombardements sont là. Les commandos français ne sont pas vraiment informés de la situation, hein, ils sont vraiment dans leur entraînement, prêts à en découdre. Ils savent peut-être que c'est le prix à payer aussi pour la réussite du débarquement qui aura lieu quelques mois plus tard. Là, je parle des bombardements effectivement, du printemps 44. Après, la deuxième partie de question, effectivement, l'intérêt de ce documentaire et du livre qui est associé à ça, c'est de révéler un peu, de manière un peu brutale pour la première fois, l'ampleur des dégâts. Effectivement, 60 000 morts, dont 20 000 Normands. Vous pensez que le nombre de GI américains tués en Normandie, c'est 20 000. Donc il y a autant de GI américains tués que de civils en Basse-Normandie. Durant l'été 44, donc c'est vraiment, les civils ont payé vraiment un lourd tribut, la Normandie a payé un lourd tribut, et 60 000 morts, ça fait de la France le deuxième pays le plus bombardé après l'Allemagne par les Alliés, donc c'est quand même quelque chose qu'il fallait effectivement souligner, et ça le documentaire insiste très bien
là-dessus. Les images font penser à Berlin, hein.
Voilà, exactement. Et moi qui suis canet, c'est des choses avec lesquelles on vit tout le temps, quoi. On traverse pas une rue sans avoir le souvenir de ce que était la ville avant, ou de rencontrer un témoin qui vous raconte ça. Et nous, on organise beaucoup de veillées du souvenir. Et la question des bombardements revient sans arrêt. Maintenant, c'est les enfants, mais les parents ont témoigné. Maintenant, c'est les enfants qui témoignent. Et puis, ça sera tout le temps comme ça. Mais malgré tout. Malgré ça, malgré l'intensité des bombardements, il n'y a pas de rancœur particulière ou d'amertume par rapport aux alliés, aux bombardements, qu'ils soient britanniques ou américains. C'était le prix à payer, malgré tout, pour la libération de la France qui a été assez rapide, finalement.
Le sentiment qu'on a à la fin de ce documentaire, c'est que, au fond, précisément, ils n'ont pas l'air d'en vouloir vraiment, par exemple, aux Américains, mais que leur soulagement, c'est surtout de voir arrêter les bombardements.
Bah oui, parce que.
Et plus que, j'allais dire, ouais. peut-être paradoxal ce que je vais dire, peut-être plus même que le départ des Allemands. C'est la mort qui tombe sans arrêt, et on a le sentiment que c'est ça qui les motive pour finalement dire bon, ben ça y est, c'est terminé.
Parce que comme vous le disiez, ça a duré quasiment toute la guerre, quoi, ces bombardements, hein, depuis 41, 40, jusqu'en 44. À Caen, le 6 juin 44, c'est la 1020e alerte. 1020e alerte de pendant la guerre. Et cette dernière alerte sera l'arrêt de mort de la ville de Caen, hein, qui sera rasée le 6 juin 1944 et le 7 juin. Vous voyez, donc Caen est un exemple, mais je pense au bombardement de Nantes ou Dunkerque, enfin il y en a eu tant d'autres, mais
dont
on ne parle jamais finalement. On a beaucoup parlé de la Normandie, c'est vrai.
Oui, parce qu'elle a été la plus touchée, certainement.
Ou alors des villes portuaires.
Plein de villes. Mais Rouen, par exemple, voilà, cette ville, deux fois.
Voilà. Et le Havre, alors.
Le Havre, n'en parlons pas.
On n'en parle pas parce que.
On le voit, là, on le voit maintenant.
Parce que c'est le 12 septembre, on est loin de la libération. On pense que la libération est acquise depuis le 6 juin, depuis la libération de Paris. Alors le 12 septembre, vous pensez bien que le bombardement du Havre.
Est-ce que vous rejoignez vous qui avez étudié ce dossier en détail, en profondeur, est-ce que vous rejoignez ce sentiment, en quelque sorte, d'une part d'inutilité? Je mesure mes propos.
Oui, parce que finalement, les Allemands, ça ne les a pas empêchés de tenir jusqu'à la fin de la guerre. Je vois bien notamment dans les poches de l'Atlantique ou dans les zones portuaires fortifiées ou même à Caen. On a bombardé le camp le 6 juin, le 7 juin. Les Allemands sont encore là. Le 7 juillet, le 8, le 9 juillet, ils sont encore là. Le dernier bombardement sur Caen, c'est au mois d'août. Et ça n'a pas, ça a un peu, et surtout ça a désorganisé l'avancée des Alliés plus que le renfort des troupes allemandes finalement dans cette histoire. Les Alliés ont eu un mal de chien à se faufiler dans ces rues en ruine, dans ces villes en ruine en Normandie. Dieu sait qu'il y en a. Voilà, donc effectivement, utilité ou pas, fallait-il bombarder les villes? C'était l'éternel débat. Je pense que ça fait partie de la stratégie de la guerre à l'époque. Voilà, le fait nouveau, c'est qu'on bombarde les villes.
Ouais. Mais peut-être.
On les prend plus, il n'y a plus de siège.
Encore au point.
Voilà, voilà. Et à l'époque, on ne parle pas de frappe chirurgicale. Alors là, on bombarde à tout va, à l'aveuglette. Voilà, ouais. D'où les centaines de milliers de morts en France. Quoi. Enfin, les 60 000 morts en France.
60 000 morts, oui.
Écoutez, ça fait partie, je trouve, de ce détricotage progressif de cette Seconde Guerre mondiale avec plein de petits pans que l'on aborde progressivement et que l'on peut aborder tout de même maintenant de façon pacifiée, avec du recul, avec donc de l'intelligence.
Ouais. Et puis aussi, il faut dire qu'on s'intéresse depuis quelques temps au sort des civils. C'est vrai que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. On parlait beaucoup des armées, de la chose militaire, des campagnes, des batailles. Et les civils, dans cette histoire, on n'en parlait pas. Et depuis maintenant quelques années, on commence à en parler. Donc il y a des livres, il y a des documentaires. Il va bientôt y avoir un musée consacré aux... Il n'y a pas de musée consacré aux civils dans les guerres en France.
Ouais.
Donc en Normandie, vers Falaise, bientôt il y aura un musée consacré aux civils dans la bataille de Normandie, mais au sens plus large, dans les guerres en général. Voilà, donc... Les civils sont là, quoi. Ils sont au cœur de la bataille, ils sont les premiers à être victimes de ça.
Alors, revenons à notre commando Kiefer qui a essuyé lui aussi la mitraille, certainement, tout en abordant la plage de Sword. Alors, Sword, c'est une plage britannique et canadienne. Hein,
Britannique
exclusivement.
Ouais, exclusivement ouais.
D'accord. Donc, ils débarquent sur deux barges.
Alors, ils ont le privilège de faire toute la traversée sur leur barge déjà, tandis que le plus gros des troupes qui vont arriver derrière, ils sont sur des gros transporteurs de troupes. Ils sont mis dans des barges au large des côtes françaises.
Ah oui,
eux, ils embarquent directement sur leur barge dans un port anglais, donc des barges à fond plat.
Mm-hmm.
Donc je vous laisse imaginer l'inconfort de la traversée.
Oui, parce que tout marin que sont certains, ça n'a pas l'air d'être de tout repos.
Dans une mer démontée.
Ouais.
Et donc ils arrivent quasiment tous malades à 4h30 au large des côtes le matin. Et donc à 4h30, donc, se met en place le tir d'artillerie navale, les bombardements de la côte. Et eux, ils commencent à débarquer à 7h30. Donc ils ont deux barges qui débarquent quasiment de manière simultanée. Ils sont quelques minutes avant le gros des troupes britanniques qui sont derrière. Donc on leur fait l'honneur de débarquer les premiers. Messieurs les Français, débarquer les premiers. Donc quelques minutes avant, tout le monde y débarque. Et là, malheureusement, ça se passe très mal pour une débarque puisque la passerelle qui permet aux hommes d'être mis à terre explose sous le coup d'un obus. Et donc là, les commandants de barge sont obligés de se mettre côte à côte pour pouvoir faire en sorte que la troupe puisse débarquer sur l'autre barge. Donc c'est une menace très compliquée. Donc à ce moment-là, il y a trois morts tout de suite sur le coup, atteints par cet obus tiré par les Allemands. Et l'objectif de ces Français, c'est de traverser la plage en courant, de ne pas s'arrêter, ne serait-ce que même pour dépanner un copain ou secourir un camarade blessé. Ils ont hors de courir et d'aller à un point de ralliement qui se trouve à 200 mètres au-dessus dans les dunes et là d'y poser leur sac, qui fait quand même 35 à 40 kilos, et de se compter et de faire une pause avant de repartir vers leur objectif qui est le casino de Ouistreham, en tout cas ce qu'il en reste. Donc là, ils ont une traversée de la plage qui se fait sous le feu de l'ennemi. Et donc, on a, je vous le disais, on a là trois premiers morts sur la plage et les sept autres seront tués dans les combats dans Ouistreham. Donc voilà, 7h30, 8h, ils repartent à l'assaut de leurs objectifs. Et donc là, Kiefer divise ses hommes en trois groupes. Un groupe qui ira directement sur le casino, donc par les routes intérieures. Un deuxième groupe qui va longer toute la plage jusqu'au casino pour nettoyer tous les points fortifiés. Et donc et la troisième troupe, qui est la section de mitrailleuses, qui doit accompagner les uns les autres. Et tout ce beau monde-là doit se retrouver dans une manœuvre en tenaille devant prendre le casino fortifié de Ouistreham.
Donc immortalisé à sa façon dans le film Le jour le plus long, film qu'a vu Kiefer.
Tout à fait. Alors ce film de 62, Kiefer en a été un des conseillers historiques, donc Daryl Zanuck l'appelle. Et Kiefer à ce moment-là est très très diminué, très malade. Donc il va laisser se développer une version de la prise du casino un peu erronée, parce que finalement dans ce film-là, on voit les Français partant à l'attaque d'un immeuble de 3-4 étages imposant. C'est pas ça la réalité en fait. C'est le casino de Ouistreham, c'est un ouvrage qui a été rasé par les Allemands en 1942, donc c'était un établissement de jeu. Et les Allemands n'ont gardé que le soubassement fortifié, donc c'est un soubassement qui fait 2-3 mètres de haut, et en béton, et sur lequel les Allemands ont réinstallé dessus un système d'artillerie, de coupole, voilà. Et donc c'est pas du tout faux. Faut essayer de se démarquer de cette image d'Épinal du casino. Et donc, Kiefer participe au tournage en 62. Il assiste à la première du film au Palais de Chaillot, donc en septembre, je crois. Et donc, il va s'éteindre en novembre 62. Donc,
très
peu de temps après. Voilà, ouais.
Alors, Kiefer est lui-même blessé très vite. Hein, deux blessures.
Deux fois, voilà. Il est blessé une première fois sur la plage, à la cuisse. Et donc, il garde le commandement de ses hommes. Et puis, lors de l'attaque du casino, juché sur son char, qu'il a réussi à dérouter de son trajet initial, il est blessé une deuxième fois au bras. Donc c'est un homme blessé qui mène ses hommes quand même le soir du 6 juin à la fin de leur mission. Et il va être évacué le 9 juin, parce qu'il y a un risque de gangrène, notamment à la jambe, et donc de perdre sa jambe. Donc il est rapatrié en Angleterre en urgence dans un hôpital.
Mmh. Alors sur les lieux de leur arrivée, le long de la plage, là, il y a un monument qui a été érigé sur une ancienne tourelle.
C'est un ancien blockhaus allemand, la coupole est française, la tourelle est française. Les Allemands l'ont récupérée sur la ligne Maginot. Donc ils l'ont réinstallé ici en 42 ou 43. Et donc c'est sur ce blockhaus franco-allemand, on va dire, qui a été érigé un monument qu'on appelle la flamme, parce que sur une espèce de flamme en aluminium là, qui se dresse vers le ciel et sur laquelle ont été gravés les 177 noms des Français. Et ça a été un monument inauguré en 84, donc très tardivement, en 1984. Mmh. En fait, 84, c'est une date charnière, parce que c'est à la fois la création de ce monument, donc un lieu où les commandos, les anciens, les vétérans vont pouvoir se réunir et se recueillir. C'est la date aussi où est créée l'association des commandos, donc tous ces anciens n'ont pas d'association, donc... Voilà. Et puis c'est la première fois qu'un président français va venir les honorer donc en Normandie. Donc c'est François Mitterrand qui le 6 juin sera présent devant ce monument.
Et il y a des stèles qui témoignent de l'endroit où les corps sont tombés.
Alors les 10 stèles qui sont autour de ce monument sont là pour rappeler les noms et les prénoms et les âges, je crois, des 10 tués sur la plage et sur Rivabella où ils seraient. Mais c'est pas le lieu où ils ont été tués. C'est un rappel du nombre de morts. Mm-hmm. Par contre, dans les rues de Ouistreham, on a aux endroits où ces gens-là ont été tués, on a des plaques sur les maisons ou sur les murs, justement l'endroit précis qui marque leur mort.
Et alors, leur mission était d'aller jusqu'où
Alors, ceci
parce qu'ils vont jusqu'à Pegasus Bridge.
Voilà, en fait, ils n'ont pas qu'une seule mission ce jour-là, ils en ont trois. Donc, première mission, la prise du casino de Ouistreham, qui est effective à 11h30 du matin. Deuxième mission, c'est effectivement de se rendre sur le pont de Bénouville, le Pegasus Bridge, donc d'y faire la jonction avec les troupes aéroportées britanniques qui sont déjà installées depuis minuit 20, dans la nuit du 5 au 6. Et troisième mission dans cette journée, c'est d'aller s'installer à l'est de l'Orne, donc sur une hauteur, dans un village qui s'appelle Anfreville. Et là, donc, de s'y enterrer comme des poilus de 14, ils creusent leur trou le soir, le 6 juin en France. Ils creusent leur trou, leur tranchée de fortune, ils s'y installent pour tenir un espèce de verrou. Là, on est vraiment à l'extrémité est du débarquement qui va de Utah Beach. Il y a 80 km de côte et donc on est au bout du bout là. Et donc ces Français, avec les parachutistes britanniques, tiennent cette position de façon à empêcher les renforts allemands qui viendraient soit du sud de Caen, soit du nord de Caen, soit de l'est. Et donc ce verrou, ils vont le tenir jusqu'au 24 juillet quasiment, dans une guerre de position.
Et Kiefer, donc lui, est évacué, il revient en juillet.
Il revient mi-juillet, mi-juillet, donc c'est-à-dire qu'il a laissé ses hommes pendant un mois à son adjoint, donc Alexandre Loffy, et donc dans une période très compliquée parce qu'il n'y a pas de renfort, les hommes sont fatigués, ils n'ont plus de permission, ils n'ont pas de nourriture supplémentaire, ils sont de moins en moins nombreux, ils sont dans une guerre statique pour laquelle ils ne sont pas du tout préparés. On les a formés justement à faire des opérations de coups de poing, et là on les engage comme des... Donc les seules missions qui sont proposées aux Français, c'est des patrouilles de nuit, qui sont très dures du point de vue psychologique, parce que l'ennemi est invisible. Donc quand Kiefer revient le 16 juillet, c'est une troupe un peu dans un piteux état qu'il retrouve.
Alors Stéphane Simonet, vous avez consacré une biographie au commandant Kiefer, un livre, un très bel album aux 176 autres membres de ce commando. On l'a dit au début de notre émission, en 2008, le nom de Kiefer a été donné à un des commandos marines. Donc il y a une reconnaissance de ces hommes, mais qui arrive maintenant. Lors de la libération, on a vu avec vous tout à l'heure que les relations entre Kiefer et De Gaulle n'étaient pas non plus des relations d'une grande intimité. Ils ont une reconnaissance, ils sont mis à l'honneur.
Non, il y a un défilé sur les Champs-Élysées le 26 mai 1945. Donc c'est un défilé franco-britannique, donc c'est vraiment pour un petit peu commémorer le fait que ce sont des frères d'armes. Donc il y a une quarantaine de commandos français, une quarantaine de commandos britanniques qui défilent conjointement sur les Champs-Élysées. La foule les acclame, voilà. Et ces gens-là sont démobilisés en juillet 45 et ils retournent à la vie civile tout simplement. Donc ils ont un costume tout neuf et un billet de 200 francs et merci, au revoir en gros. Mais comme la plupart des Français libres en général, personne ne les attend. Donc on est plus à même d'accueillir les déportés, les prisonniers de guerre. De Gaulle souhaite aussi un climat de réconciliation. On va honorer plutôt les résistants de l'intérieur. Mais tout ce qui est combat extérieur, que ce soit les gars de la 2e DB ou de la 1ère Division Française Libre ou le groupe Normandie-Niémen, qui est un peu traité à part quand même, mais on va les oublier très rapidement parce que c'est pas la priorité, il faut reconstruire un pays. Et puis eux-mêmes, ces Français, ils doivent aussi se trouver une vie à construire. Ils sont jeunes, ils n'ont pas de diplôme, ils ont sacrifié 2-3 ans de leur jeunesse et beaucoup sont au chômage, beaucoup vont être dans des périodes très compliquées, très difficiles du point de vue social ou familial. Et ils repartent sur tout leur lieu d'origine, ils sont volontaires, donc ils restent pas dans l'armée en plus. Il n'y a pas d'association qui est créée à ce moment-là. Kieffer, à la différence de Leclerc, n'anime pas aussi un esprit de corps, de groupe, comme à la deuxième DB. Donc il se retrouve tout seul quasiment, et avec comme mission prioritaire de survivre tout simplement. Donc voilà, donc ces gens-là se dispersent et vont se retrouver, je pense, à l'âge de la retraite, dans les années 80-84, d'où cette date de 84 aussi, qu'il fallait permettre de se réunir. Mais ils ont été oubliés, voilà, c'est pas comme beaucoup qui se sont engagés, en plus du côté britannique, là, pour le coup.
C'est vrai, au lendemain de toutes les grandes guerres, enfin des deux grandes guerres mondiales, en Angleterre aussi, on a trouvé des jeunes gens qui étaient quand même très déphasés, Même Agatha Christie a traité le sujet, très sérieusement.
Mais c'est le thème du concours de cette année, hein. Au revoir là-haut, c'est ça, c'est cette quasi impossible, cet impossible retour après les guerres. C'est pour cela que l'on doit encore plus vous remercier, Stéphane Simonet, du travail que vous avez effectué. Je rappelle aux auditeurs, puisque notre émission se termine, que nous avions le plaisir de recevoir Stéphane Simonet, historien, chercheur à l'Université de Caen, et qui nous propose une très belle biographie du commandant Kieffer, Le Français du jour J, aux éditions Talendier, et un album, Les 177 Français du jour J, toujours aux éditions Talendier. Stéphane Simonet, un grand merci.
Merci à vous.
Dominique, à mardi prochain.
À mardi prochain.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre les livres du jour, les mardis de la mémoire, dirigés par Anne Collin et Dominique Paoli, préenregistrés le 13 mai 2014, diffusés le mardi 8 juillet de 10h45 à 11h45. Ils sont diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h, mercredi de 6h à 7h, samedi 12 de 14h à 15h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour ont été réalisés par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ces livres du jour. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.